Bonjour chers auditeurices, je suis Louis Duruflet et bienvenue dans le podcast Tout sur Tout Histoire, le podcast énergie pour ceux qui n'écoutaient pas au fond de la classe d'histoire. Biographies de personnages célèbres, événements marquants, épopées entrepreneuriales, laissez-vous surprendre par l'histoire dont on ne vous a jamais parlé à l'école. Aujourd'hui, je vais lire votre avenir. Installez-vous confortablement. Allez-y, n'ayez pas peur. J'ai pris mon jeu de cartes préféré, un authentique tarot de Marseille. J'en ai rêvé ce matin. Les énergies sont de notre côté. Allez, choisissez un nombre entre 1 et 78. Ça y est, c'est bon ? Ah, voilà, je vais pouvoir couper le jeu à cet endroit. Bon, je tire la première carte. Le 3 de coupe. C'est pas mal, c'est pas mal. Qu'est-ce que j'ai ensuite ? Une reine d'épée. Intéressant. Troisième carte maintenant. Oh, l'amoureux. Alors, chers auditeurs, on a des choses à raconter à votre podcasteur préféré ? Oui, je sais tout, oui, les cartes me l'ont dit. Eh bien, soyez rassurés. Je lis que tout va bien se passer, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, trêve de plaisanterie. Ceci est bien sûr un faux tirage de tarot, mais j'espère que ça vous aura amusé. Et aujourd'hui, c'est de ça dont on va parler, du jeu de tarot. Et d'où ça vient d'ailleurs ? Les premières mentions d'un jeu de cartes tout court datent du 9e siècle, durant la dynastie Tang. Les premières cartes ont un but divinatoire, et elles sont en réalité l'adaptation d'un jeu de dés venu d'Inde, un peu complexe comme origine. La deuxième fois où on voit apparaître des cartes à jouer, c'est dans le sultanat mamelouk d'Égypte. C'est un sultanat qui a prospéré de 1250 à 1517, et qui avait à sa tête les mamelouks. Des enfants capturés dans des pays non musulmans, puis qui recevaient une éducation très stricte. Arrivés à l'âge adulte, le sultan les affranchissait et les mamelouks intégraient la caste dirigeante. Un système vraiment fou. Et on ne connaît pas l'origine de ces cartes-là. Mystère et boule de cartes. Ce sont peut-être celles de Chine qui auraient voyagé jusqu'en Afrique, mais rien n'est moins sûr. Ce dont on est sûr, en revanche, c'est que ce sont ces cartes-là qui sont parvenues jusqu'à nous. Le jeu était composé de 5 couleurs. Par couleur, j'entends les symboles sur les cartes. Et oui, c'est comme ça que ça s'appelle. À l'époque, il n'y avait pas de cœur, carreau ou trèfle, non. On a les bâtons, les pièces, les épées, les coupes et les bâtons de polo. Ça m'a surpris aussi, mais le polo était le sport préféré des mamelouks. Donc on a 5 couleurs. Et dans chaque couleur, il y a 10 cartes à points. Comme notre jeu à nous. As, 2, 3, etc., etc. Et puis, comme notre jeu à nous, il y a 4 honneurs. Les honneurs ? Mais oui, c'est le valet, cavalier, dame et roi. Eh bien, chez les Mamelouks, c'était l'assistant, le second, le vice-roi et le roi. Les cartes arrivent jusqu'en Europe par le port de Venise en 1370. Petites et pratiques, elles se répandent dans la ville comme une traînée de poudre, surtout dans les milieux portuaires et les auberges les plus sombres. Car qui dit jeu de cartes dit jeu d'argent. Dans certains endroits, les dés avaient déjà été interdits pour ces mêmes raisons. En 1382, c'est le magistrat de Lille qui interdit les jeux de cartes. Le 22 janvier 1397, le prévôt de Paris déclare que les travailleurs ne peuvent pas jouer au tennis, aux dés, aux quilles et aux jeux de cartes. Pas très fun, le XIVe siècle. Si vous avez été attentif, j'ai dit que le prévôt de Paris interdit aux travailleurs de jouer. Et seulement aux travailleurs. Et si vous avez suivi comme il faut en cours d'histoire, vous savez que la société médiévale était divisée en 3. Mais non, c'est vrai, vous seriez pas là à m'écouter si vous aviez suivi en cours d'histoire. Allez, rattrapage. La société médiévale se pense comme une société unie et indivisible. Chaque personne fait partie d'un ordre et doit y rester. Il en va du bien de la société. Et c'est une société chrétienne, très attachée à la Trinité divine. Dieu, Jésus et le Saint-Esprit. Et du coup, on met le chiffre 3 à toutes les sauces. Et tant qu'à faire, pourquoi pas pour distinguer les trois ordres de la société ? On a donc ceux qui prient, les oratores, les hommes d'église, quoi. Dans le même degré d'importance, on a ceux qui font la guerre, les bellatores. Et quand il n'y a pas de guerre, eh bien, ils font pas grand-chose, quoi. Bon, il y avait quand même souvent des guerres à l'époque. Et enfin, en dessous des deux autres, il y a ceux qui travaillent, les laboratores. Ça représente 80% de la population. Et ce sont ces mêmes 80% qui n'ont pas le droit de jouer aux cartes, mais pas les autres. Ça sonne pas comme un privilège, tout ça ? Bref, le tarot tel qu'on le connaît aujourd'hui naît vers 1440, en Italie. Seules les personnes oisives avaient le droit de jouer aux cartes. À l'époque, dans les cités italiennes, les maisons les plus riches rivalisent d'ingéniosité pour demander un jeu de cartes unique. Un jeu de cartes qui les distinguerait des autres. Il fallait demander à un artisan de fabriquer le jeu, qui est ensuite reproduit par des procédés spécifiques d'imprimerie, puis peint et décoré à la main, comme le tuning, mais pour les cartes, quoi. Bon, je pousse un peu loin. Le plus ancien de ces jeux retrouvés avait été fait pour Philippe Visconti, le duc de Milan. Son successeur, Francesco Forza, s'en était fait faire un autre. Ces tarots vont être ceux que l'histoire va retenir, que ce soit par les visuels, le nombre de cartes ou les symboliques qu'on y met derrière. La structure contemporaine est déjà là, à quelques petits écarts près. On a quatre couleurs. Bâton, denier, coupe et épée. 10 cartes à numéro et 4 honneurs. Ceux-là, ils ne bougeront plus. On y retrouve donc le valet, le cavalier, la dame et le roi. On arrive déjà à 56 cartes. Et en plus de ces 4 séries de cartes, on en ajoute une cinquième. Les triomphes. 22 cartes numérotées et plus fortes que toutes les autres. Les triomphes, c'est ce qu'on appellera par la suite les atouts. Chaque atout représente une allégorie forte. Quand on pense au tarot, ce sont les atouts qu'on s'imagine en premier avec leurs images colorées qui montrent des personnages et des scènes mystérieuses. Je vous les liste dans l'ordre, du plus petit au plus grand. Il y a d'abord le fou, le bateleur, la papesse, l'impératrice, l'empereur, le pape, l'amoureux, le chariot, la justice. Le temps, la roue de la fortune, la force, le pendu, la mort, la tempérance, le diable, la tour, l'étoile, la lune, le soleil, le jugement et enfin le monde. C'est à partir de ce jeu de cartes qu'est né le tarot de Marseille. Marseille, parce qu'il est né à Marseille, tout simplement. Là encore, rien de mystique pour le moment. Ça reste un simple jeu de cartes à utiliser pour jouer à la bataille. Chacun pose une carte, et la plus forte remporte le pli. L'aspect divinatoire du tarot arrive un peu plus tard, avec un Français. On accueille chaleureusement dans notre tente de liseur de bonne aventure le célèbre Antoine Court de Gébelin. Antoine naît le 25 janvier 1725 à Nîmes. Son père est pasteur pour l'église protestante. Petit Antoine décide de faire comme son père et devient pasteur, mais pas pour longtemps. Rapidement, il abandonne sa vocation de pasteur pour étudier les anciennes mythologies. Malgré l'aspect scientifique de ses recherches, il a une idée derrière la tête. Il veut prouver que le protestantisme, eh bien, c'est mieux que tout le reste. À partir de 1773, il rédige l'œuvre de sa vie. Son Seigneur des Anneaux à lui, quoi. Et cet ouvrage, c'est le monde primitif analysé et comparé avec le monde moderne. Rien que ça. Il meurt en 1784 en laissant l'ouvrage inachevé. En même temps, il avait envie de traiter de tout. Il y parle de grammaire, de mythologie ancienne, de calendrier, de la possibilité qu'il y ait, à l'origine de toutes nos langues, une langue universelle. En 1781, il écrit un chapitre sur le tarot. Pour lui, c'est clair, il faut faire remonter le tarot à l'Égypte antique. Tout ça serait lié à Thoth, le dieu à tête d'ibis. L'ibis est un oiseau qui sait distinguer l'eau potable de l'eau non potable. Savoir précieux quand on vit dans des déserts et que l'eau est une ressource rare. Naturellement, il devient le dieu du savoir, et par la suite, le gardien des écrits et le dieu de la magie. C'est vrai ça, si vous connaissez tout sur tout. Vous pouvez déclamer les formules magiques les plus puissantes provenant des savoirs les plus secrets. Antoine Cour de Gébelin croit fermement qu'il y aurait un livre de Thoth qui contiendrait des formules qui donnent des pouvoirs supérieurs à ceux des dieux. Comme quoi, ça ne le dérangeait pas de croire au protestantisme et aux dieux égyptiens en même temps. Pas étonnant, il était franc-maçon et donc empreint d'un mysticisme plutôt prononcé. Et il pensait aussi qu'un livre aussi puissant se doit d'être caché. Le livre de Thoth aurait donc voyagé de main en main jusqu'en Europe, où il aurait été transformé en jeu de tarot pour mieux cacher son identité. En fait, tout ça est une invention totale de Cour de Gébelin. Il croyait même que les 22 atouts correspondaient aux 22 lettres de l'alphabet hébreu, et qu'il fallait avoir une érudition importante pour comprendre le sens caché des cartes. Il était peut-être Cour de Gébelin, mais il était certainement pas à court d'imagination. À l'époque, ce sont des idées qui fascinent complètement les gens. Imaginez-vous, les cartes avec lesquelles vous jouez, ce petit plaisir mondain, cache en fait les secrets des dieux égyptiens. C'est à la fois classe et mystérieux. C'est un autre Français qui va donner au tarot ses plus belles heures de gloire. Jean-Baptiste Alliette est un jeune marchand de grains qui cherche à faire fortune. Et ça tombe bien, parce qu'il existe une bonne méthode pour les petits malins qui veulent s'enrichir. La recette est même toute simple. Il suffit de prendre un problème que tout le monde rencontre. Par exemple, au hasard, vouloir connaître son avenir. C'est vrai, ça, non ? On a tous envie de connaître son avenir. Mais ça aurait pu être une autre idée, comme choisir la guérison des maladies ou la communication avec les morts. Une fois qu'on a trouvé son problème, il faut présenter une solution qui soit impressionnante. Le magnétisme, déjà fait. Les bains de boue, trop sales. Il paraît qu'un franc-maçon a sorti un livre où il parle du tarot. Pas mal, ouais, pas mal. Jean-Baptiste Alliette met tout son talent au service du charlatanisme. Il se prend un pseudo et choisit Etella. Il n'est pas allé le chercher loin. Etella, c'est Alliette à l'envers. Et là, il y va. Il raconte que le tarot est un livre écrit par le dieu Thoth lui-même et que c'est même le plus vieux livre du monde. Et qu'en tirant les cartes avec un ordre précis, on arriverait à lire ce que Thoth veut nous raconter. Et selon la manière dont on range le jeu, si les cartes sortent à l'endroit, à l'envers, si c'est un numéro ou un atout qui sort, c'est tout un récit qui apparaît sous nos yeux et qui nous dise l'avenir. Rapidement, ce sont les diseuses de Bonne Aventure qui utilisent son livre pour justifier leur divination. Jusqu'ici, elles utilisaient les cartes de tarot, mais sans y prêter d'intention mystique. Un peu comme lire dans du marc de café ou dans les feuilles de thé. Mais là, ça leur donne un manuel avec lequel on peut y raconter tout un tas de nouvelles histoires. Et qui dit nouvelles histoires à raconter aux clients crédules, dit belles opportunités économiques. Et ça prend. Tout le monde veut son tirage de tarot. Ça n'est pas par hasard qu'on appelle le 18e siècle l'âge d'or des charlatans. Le prochain à s'intéresser au tarot arrivera presque 100 ans plus tard. Et c'est un Français, encore décidément, un Français qui s'appelle Eliphas Lévy. Enfin, ça c'est pas son vrai nom, c'est son nom d'occultiste. Son vrai nom, c'est Alphonse Louis Constant. On est d'accord, ça sonne tout de suite moins mystique. Alors on va l'appeler Eliphas Lévy, c'est quand même plus classe. Vers les années 1850, il rédige un ouvrage sur le tarot. Lui, il ne pense pas que le tarot permette de deviner l'avenir, mais au contraire de se plonger dans son passé, dans une connaissance intime de soi. Comme par exemple, si vous tirez le fou, c'est à interpréter comme un retour vers la réalité que vous avez vécue, quoi que cela vous évoque. Il balaie quelques interprétations d'Etella pour reprendre celle d'Antoine Cour de Gébelin. Un peu plus tard, c'est l'occultiste suisse Joseph Wirth qui crée le tarot des magiciens en 1889. C'est la première fois qu'on crée un tarot spécifique pour la divination. Par la suite, de nombreuses sociétés occultes vont intégrer le tarot dans leurs outils de divination et d'interprétation des phénomènes surnaturels. Dans le lot, on retrouve notamment l'ordre kabbalistique de la Rose-Croix ou l'ordre hermétique de l'Aube dorée à l'extérieur, une société secrète britannique, au nom particulièrement alambiqué. De nombreux changements apparaissent dans les tirages. D'un coup, chaque atout a trois significations. Ou non, certains racontent que c'en est que deux, ou six. Toutes les croyances mystiques y passent, traditions juives, ou plutôt orientalisantes, parfois mélangées avec de l'héroïque fantasy, ou au contraire très renaissance. Bref, chacun fait son tarot comme il veut. Aujourd'hui, il y en a plus de 10 000 versions différentes. Il y a même des versions avec des chatons. Et chacune se revendique être le tarot le plus authentique. Ça va de soi. Dans les années 80, c'est le cinéaste et artiste multifacette Alejandro Jodorowsky qui décide de remettre le tarot au goût du jour. Jodorowsky, ou Jodo pour les intimes, j'en suis fan. C'est un artiste de 93 ans qui est écrivain, dramaturge, scénariste, réalisateur, poète, mime, metteur en scène, acteur, marionnettiste, psychologue, sculpteur, peintre, alchimiste. Et j'en passe et des meilleurs. Pour les amateurs de BD par exemple, il est connu pour avoir co-créé avec l'artiste Moebius une série qui s'appelle L'Incal. Je vous la recommande fortement. Et pour les amoureux de cinéma, il est connu pour ses films El Topo, La Montagne Sacrée, et sa tentative ratée d'adapter Dune au cinéma dans les années 70. Ah, j'aime vraiment bien le tout dernier Dune, mais j'aurais adoré voir le sien. Bref, dans les années 80 donc, Jodorowsky essaye de retrouver l'essence du tarot originel. Il travaille pour ça avec Philippe Camoin, le descendant d'un fabricant de cartes de tarot de Marseille. Ensemble, ils vont utiliser les nouvelles technologies de l'informatique pour essayer de reconstruire le tarot. Ils pensaient qu'en utilisant les symboles véhiculés par le tarot, on pourrait communiquer avec son inconscient. Le tarot serait alors un miroir de l'âme, une manière de créer son avenir en amenant son inconscient à se mettre dans des dispositions particulières. En réalité, c'est très compliqué de savoir ce qui relève du mysticisme occulte, de la psychologie inconsciente ou d'un simple effet Barnum. Barnum, oui, comme le célèbre homme de cirque Phineas Barnum. C'est son histoire qui est racontée dans le film The Greatest Showman, ou encore c'est son cirque qui est dépeint dans le dessin animé Dumbo. Dans la vraie vie d'ailleurs, Barnum avait un éléphant qui s'appelait Jumbo, et qu'il emmenait d'un bout à l'autre des États-Unis avec son cirque. Et Barnum était réputé pour exagérer la réalité. En gros, l'effet Barnum, c'est un biais cognitif qui fait qu'on va prendre une prédiction vague qui pourrait s'appliquer à beaucoup de gens et penser qu'elle nous est précisément destinée. C'est le coup typique de l'horoscope du journal gratuit du métro. Allez, j'ouvre le journal et je lis au hasard. Bélier, des thématiques liées à votre famille vous tracassent. Et là, on se dit, oui, c'est vrai. Ma sœur, elle m'inquiète un peu en ce moment. C'est magique. Pour le tarot, c'est pareil. Il est facile de tirer des leçons relativement générales par l'interprétation des cartes, qu'on va appliquer à ce qu'on vit de manière précise. Et si ça tombe pas complètement juste, c'est pas grave. C'est peut-être qu'on a mal interprété la carte. C'est QFD. Mais peut-être que je vous raconte tout ça pour garder cachés les secrets du tarot. Allez, avant de nous quitter, un petit résumé. On a donc vu que le jeu de cartes, d'une manière générale, est né en Chine au XIe siècle, puis est apparu en Égypte chez les Mamelouks. Il aurait fait le voyage jusqu'en Italie au XVe siècle, pour devenir le jeu de tarot proche de celui qu'on connaît aujourd'hui. Quatre couleurs, avec chacune 10 numéros et 4 têtes. En plus de ça, 22 atouts. Enfin, 21 et un fou, qui deviendra un joker. C'est ensuite au XVIIIe siècle, en plein siècle des Lumières, qu'un certain Antoine Court de Gébelin invente une origine mystique au tarot. Celui-ci serait une version cachée du livre de Thoth, le dieu égyptien. Au fur et à mesure, les sociétés secrètes et autres pourfendeurs de la vérité occulte se saisissent du tarot qu'ils ajoutent à leur arsenal. De nombreuses versions apparaissent, chacune se réclamant du vrai tarot. Le dernier en date vient de l'artiste franco-chilien Alejandro Jodorowsky, qui, dans les années 80, cherche à recréer l'original tarot de Marseille. Avec les progrès de l'histoire, on sait que son tarot n'est pas si fidèle que ça aux premières versions. Mais de nombreuses personnes s'en contenteront pour lire leur avenir, ou à l'intérieur d'eux-mêmes. Et d'ailleurs, pour le jeu de cartes classique, je ne vous ai pas raconté comment on est passé des épées, deniers, etc., aux classiques cœur, carreau, trèfle et pique. L'explication est toute simple. Au XVIIIe siècle, un quartier, c'est comme ça qu'on appelle quelqu'un qui fabrique des cartes, considère que le jeu de cartes pouvait représenter une vision moderne de la société. Non plus à trois corps, mais à quatre corps. D'un côté, les militaires, avec leurs armes qui piquent. Puis les bourgeois, dont les maisons sont pavées de carreaux. Le clergé, comme chacun le sait, est composé des gens de cœur. Et enfin, dans les champs des paysans, poussent plein de jolis trèfles. Et je ne peux m'empêcher de vous laisser sur cette anecdote, tant elle me fascine. Prenez un jeu de tarot de 78 cartes et imaginez toutes les combinaisons possibles de cartes. Eh bien, sachez qu'il y a plus de combinaisons de cartes que d'atomes dans l'univers. Ça fait 10 puissance 114 combinaisons possibles de cartes. Un 1 avec 115 zéros derrière. En comparaison, on estime qu'il y a 10 puissance 80 atomes dans tout l'univers. C'est fou! Et ça veut donc dire que quand vous mélangez un jeu de tarot, vous sortez probablement un nouveau tirage pour la première fois de toute l'histoire de l'humanité. Merci d'avoir suivi avec passion cet épisode sur le tarot. Cet épisode a été écrit par Tracy Wilson et Holly Frey pour le podcast américain Stuff You Missed in History Class. Il a été réécrit, adapté et interprété par Louis Durufflet. À la production et à la réalisation, Amel Almia. À la rédaction en chef, Maude Ventura. Tout sur Tout Histoire est un podcast NRJ et iHeart Podcast. Retrouvez tous les épisodes sur nrj.fr, sur l'app d'NRJ ou sur votre application de podcast préférée. Et si vous avez aimé cet épisode, parlez-en autour de vous. Mettez-nous des étoiles et des commentaires. Si vous avez aimé, c'est vraiment la meilleure manière de soutenir ce podcast. À bientôt !